Bonjour à tous, je m'appelle Samuel, je suis un des pasteurs de cette église et c'est une joie pour moi de chanter ces vérités ensemble avec vous. Une météorologue a écrit ses mémoires dans un livre qu'elle a intitulé « Pour l'amour du ciel ». Un pilote d'avion, un astronome aurait pu faire pareil peut-être, « Pour l'amour du ciel ». Eh bien l'apôtre Paul était aussi animé par « L'amour du ciel ». L'amour pour le ciel et l'amour qui est dans le ciel. Et il veut que cette église à Corinthe et aussi à Toulouse s'inspire de l'amour qui existe éternellement au ciel. Alors ce matin, nous allons lire la dernière partie de ce célèbre chapitre sur l'amour, 1 Corinthiens 13, que nous étudions depuis la rentrée. Et nous allons lire les versets 8 à 13. Que j'affiche sur l'écran si vous voulez, ou vous pouvez suivre dans votre Bible, 1 Corinthiens 13, 8 jusqu'à la fin du chapitre. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses... c'est l'amour. Tout au long de ce chapitre, Paul montre le principe supérieur de l'amour, la suprématie de l'amour pour régir la vie chrétienne, pour régir une vie d'église. Dieu a donné divers dons, diverses activités, divers ministères, et c'est bien, mais au cœur de tout ça, il y a l'amour. Et pour Paul, l'amour, c'est le meilleur don, c'est le meilleur service, c'est la meilleure manière de fonctionner dans l'église. Donc, il avait déjà souligné plusieurs qualités de l'amour. Il est patient, il ne s'irrite pas, il n'est pas égoïste. Mais ici, la qualité de l'amour qu'il veut souligner, c'est sa permanence. Et j'aimerais vous montrer que l'amour dont il parle, c'est l'amour du ciel. C'est l'amour qu'on trouvera au ciel, c'est l'amour que nous allons vivre pendant l'éternité. Alors, ce matin, oui, je dis pour l'amour du ciel... vivant l'amour dans l'Église. Donc j'aimerais parler de l'amour du ciel. Ensuite, j'espère que ça donne envie d'y aller. Et ça nous donne une feuille de route pour ici-bas. Tout d'abord, l'amour du ciel. Je vous invite à suivre son argument dans ces versets. Paul vante l'amour comme le meilleur don à cause de sa permanence, à cause de sa pérennité. Il dit ça en verset 8, « L'amour ne périt jamais. » Dans les versets suivants, il fait une comparaison donc, entre l'amour impérissable et puis d'autres dons qui, pour Paul, sont provisoires, sont périssables. Donc il parle dans les versets 8, 9 et 10, « Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. » Il fait référence là à des dons miraculeux qu'avait reçus l'Église dans son début, qui était très utile pour attester l'autorité des apôtres, de la Bible, le message de l'Évangile. Donc, quand on parle de la connaissance, c'était une connaissance, une révélation particulière qu'on a pu recevoir un prophète. Donc, il y avait les langues, cette capacité de parler dans d'autres langues. Il y avait les prophéties, il y avait la connaissance. Et c'était des dons surnaturels, miraculeux, merveilleux. Mais pour Paul, ces dons sont provisoires, ils sont destinés à disparaître. Par contre, l'amour, lui, ne disparaît jamais. Il dit la même chose, il termine avec la même pensée. Donc, verset 8, l'amour ne périt jamais. Et il conclut en verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi c'est la plus grande de ces choses? Parce qu'elle ne périt jamais. Elle va même au-delà de l'espérance et la foi. voyez, en fait, la foi et l'espérance sont précieux, sont encore plus durables, plus importants que les dons miraculeux. Et c'est donc qui impressionnait les Corinthiens. La foi et l'espérance sont encore plus importants. Et elles vont porter les chrétiens à travers des siècles. Mais même la foi et l'espérance sont provisoires. Car vient le jour, ce jour dont nous venons de chanter, vient le jour où nous n'aurons plus besoin de foi et d'espérance. C'est ce jour où nous serons enfin réunis avec Jésus-Christ dans la gloire, dans le ciel. Et quand je parle du ciel ce matin, j'entends tout ce que la Bible a en réserve pour le chrétien éternellement, dès maintenant après la mort, et puis pour l'éternité, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, lorsque le ciel et la terre seront réunis. Mais on peut parler du ciel. Et là, vous êtes d'accord avec moi que l'amour va continuer. Au-delà de la foi et de l'espérance, au ciel, on n'aura pas besoin des dons de guérison, on n'a pas besoin de dons de parler en langue, on n'aura pas besoin de prophétie, on n'aurait pas besoin de tout ça, on n'aurait même pas besoin de foi et d'espérance, mais il y aura l'amour. Et donc, pour Paul, c'est pour ça que c'est le plus grand. Le reste est provisoire, mais l'amour perdure, l'amour ne périt jamais, donc c'est le meilleur don. Dans un cantique qu'on chante, on dit « Les plus beaux dons disparaissent et meurent, mais cette vertu vit en éternité. » Vous êtes d'accord que l'amour va continuer dans l'éternité, au-delà de tout le reste. Donc, est-ce que vous suivez l'argument de Paul ? Pour lui, l'amour est plus grand, plus important, non seulement à cause de ses qualités dans les versets 4 à 7, il n'est pas égoïste, il est patient, il est plein de bonté, ça c'est bien. Donc l'amour est plus grand, mais aussi parce qu'il va se pratiquer éternellement. Les Corinthiens avaient fait une fixation sur les dons les plus provisoires, mais Paul veut qu'ils fassent une fixation sur l'amour du ciel, le plus durable, le don permanent, cet amour-là. Votre anniversaire arrive bientôt, par exemple, ou c'est Noël. On vous propose trois dons, trois cadeaux. Un Trianon ou un joli coffret bois avec un stylo ou un lingot d'or, un kilo. Lequel vous choisissez? Le gamin de 2 ans, il va peut-être choisir le Trianon. Mais la personne mature, mûre, va choisir le lingot d'or pour son caractère impérissable. Je suis d'accord, le Trianon a l'air peut-être plus joli, plus impressionnant, plus somptueux, surtout si c'est celui mondialement connu de Anne-Sophie. Ouais. Le bois est bien. C'est un stylo suisse, c'est sympa. Et c'est utile, ça va durer un certain temps. Mais le bois aussi va finir par pourrir. Mais l'or, vous êtes d'accord, a une valeur nettement plus grande parce qu'il ne périt pas. En ce moment, je crois, 1 kilo d'or vaut 100 000 euros à peu près. 108 100. Donc, voilà. Lequel vous choisissez ? En plus, l'or va probablement augmenter de valeur avec le temps, alors que les autres vont perdre leur valeur avec le temps. Et c'est la réflexion que Paul laisse aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient très axés sur le parler en langue, les guérisons, l'apostolat. Mais ça, c'est un peu le Trianon. C'est très bon, c'est délicieux, c'est spectaculaire, ça donne envie, c'est aux yeux, ça, c'est merveilleux. Mais c'est le plus provisoire, c'est le plus enfantin, c'est pour une gratification immédiate. La foi et l'espérance, c'est plus comme le bois, ça va quand même durer un certain temps. Et heureusement, on fonctionne avec la foi et l'espérance, et ça marche un peu dans toutes les circonstances, dans toutes les églises, dans toutes les cultures, la foi et l'espérance sont là. Mais un jour, on n'aura plus besoin ni de foi ni d'espérance, et l'amour seul suffira comme cet or périssable, impérissable. Ça, c'est l'argument de Paul en disant, c'est pour ça que l'amour, c'est le meilleur. Et à partir de cet argument de Paul et à ce pasteur connu du 18e siècle, Jonathan Edwards, il a tiré cette réflexion délicieuse, merveilleuse. Il dit, vous voyez, si l'amour ne périt jamais, ça veut dire que l'éternité, c'est de vivre avec Dieu dans le ciel, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, sera une expérience infinie, éternelle, parfaite d'amour. Puisque tout le reste disparaît, mais l'amour reste, et ce sera un amour parfait, puisque l'amour ne périt jamais, puisque nous serons en présence non filtrée du Dieu d'amour, puisque tout ce qui entrave à l'amour sera banni, puisque chaque être au ciel saura pratiquer parfaitement l'amour, eh bien le paradis sera un monde d'amour. Et les implications de cette vérité sont merveilleuses pour notre vie et pour notre Église, ce que j'aimerais vous montrer maintenant. Donc vous avez suivi l'argument de Paul, c'est que l'amour ne périt jamais, donc l'amour perdure, va jusqu'à dans l'éternité, et c'est notre destinée éternelle de vivre l'amour dans la présence de Dieu. Donc tout d'abord, ça donne vraiment envie d'y aller, d'aller au ciel et de vivre cet amour. Imaginez un tel monde, un monde qui est parfaitement régi par l'amour. Déjà, Dieu, qui est la chose la plus aimable, Dieu qui est la source ultime d'amour, sera au cœur de nos vies, au cœur du paradis. D'ailleurs, quand on décrit un peu le paradis, on dit qu'il n'y aura plus de lumière parce que Dieu sera la lumière. Il n'y aura plus de temple parce que Dieu sera notre temple. Un peu de la même façon, Dieu sera lui-même la source et la fontaine d'amour. Telle est la description un peu de l'éternité, du ciel, du paradis qu'on trouve dans le dernier livre de la Bible, notamment le dernier chapitre en Apocalypse. On voit Dieu assis sur le trône et avec lui l'agneau. Cet agneau que nous avons chanté dans nos cantiques, mais le fait qu'on le parle de Jésus comme l'agneau, rappelle, c'est un rappel éternel de son amour, parce qu'il devient agneau par la croix lorsqu'il veut donner sa vie par amour. Donc quand on parle de l'agneau, c'est un rappel de l'amour éternel de Jésus-Christ. Donc il y a Dieu sur le trône, Dieu est amour, il est sur le trône, il y a l'agneau qui aussi rappelle son amour sur le trône, et de ce Dieu coule, dit Apocalypse, comme un fleuve de vie qui guérit, qui arrose le monde, le paradis, le jardin. Donc vous voyez l'amour parfait intra-trinitaire, si vous voulez, l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit sera l'océan de gloire dans lequel nous serons plongés. Et c'était la prière de Jésus pour ses disciples. Je veux que là où je sois, il puisse être avec moi. Que l'amour dont tu m'as donné, qu'il puisse entrer dans cet amour. Edwards le décrit bien mieux que moi, de sa façon poétique, qui parle de l'amour au ciel, du paradis. Dit là, cette fontaine glorieuse coule éternellement en ruisseau, plus encore en rivière d'amour et de délices. Et ces rivières gonflent, pour ainsi dire, jusqu'à former un océan d'amour dans lequel les rachetés peuvent se baigner avec la plus douce jouissance. Et leurs cœurs, pour ainsi dire, sont inondés d'amour. C'est beau. C'est-à-dire, au ciel, nous serons parfaitement conscients de l'amour de Dieu pour nous. Et nous allons l'aimer en retour parfaitement. Il me tarde. Ici-bas, c'est difficile. Hein? On parle de l'amour de Dieu, mais en réalité, comme disait Vincent au début, nous fixons nos yeux sur les choses visibles et nous oublions des choses invisibles, comme l'amour de Dieu. Nous doutons de son amour quand quelque chose de difficile nous arrive. Nous mettons en doute l'amour de Dieu ou nous l'oublions. Et puis, nous ne le rendons qu'imparfaitement. On essaie de chanter, on essaie de prier, on essaie de lire la Bible par amour, mais c'est faible. À cause de la fatigue, à cause du péché, à cause des épreuves, à cause du diable. Mais au ciel, plus d'obstacles. N'est-ce pas merveilleux? Et je vous rappelle que aimer quelque chose, aimer quelqu'un, d'une manière pure et passionnée, et être aimé en retour, est en soi l'expérience la plus agréable, la plus merveilleuse qui soit. Aimer quelque chose, être aimé en retour, et c'est du bonheur pur.
essayer d'être triste, découragé quand vous aimez de manière pure et passionnée quelque chose. Il y a naturellement une joie, un bonheur qui est là dans cet amour. Et lorsque vous êtes aimé, on pense aux noces, on pense à des meilleurs moments entre amis, on pense à ces moments où on aime, et bien forcément ça fait ressortir le bonheur. D'ailleurs, on vient de chanter « Suprême espérance ». Tu seras tout notre bonheur parce qu'on sera en présence du Dieu d'amour. On va l'aimer parfaitement, il va nous aimer parfaitement. Ça, c'est tout notre bonheur. Et c'est vrai que dans ce monde, beaucoup de douleurs et beaucoup de souffrances viennent de ne pas savoir donner ou recevoir l'amour. Mais aimer et être aimé, c'est merveilleux. Voilà ce qui nous attend au ciel. Ça donne envie d'y aller. Mais non seulement nous allons aimer Dieu parfaitement et avoir l'expérience parfaite de son amour, nous allons aimer parfaitement tous ses enfants, tous les rachetés, les frères et sœurs en Christ. Nous allons les aimer parfaitement et ils vont nous aimer en retour parfaitement. Ça serait quelque chose aussi. Puisqu'au ciel, nous serons parfaitement transformés à l'image de Christ, nous aurons une facilité à nous aimer les uns les autres. Puisqu'en aimant Christ, nous allons aimer l'image de Christ. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes passé, qu'est-ce qui vous passionne? Les garçons, c'est des voitures, telle marque de voiture, Lamborghini, Ferrari. Donc, vous aimez cette voiture, alors qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des images et des modèles de ces voitures dans votre chambre, sur les murs de votre chambre. Vous aimez la voiture, donc vous mettez une image de la voiture ou en écran, en fond d'écran. Eh bien, puisque vous aimez la voiture, vous aimez l'image de la voiture. Puisque nous allons aimer Christ parfaitement, nous allons aimer l'image de Christ aussi. Et l'image de Christ, c'est vous et moi, transformés complètement à son image. Il est en train de nous transformer, mais on a encore de la marge avant de devenir l'image parfaite de Christ. Mais ça va venir. Et ce serait merveilleux. Donc ça veut dire aussi, lorsque on est au ciel, baigné dans ce monde d'amour, que la joie des autres sera une source de joie pour chacun à cause de l'amour. C'est-à-dire, votre joie et bonheur augmenteront ma joie et mon bonheur. Et ce qui va, par la suite, augmenter votre joie et votre bonheur. C'est comme ça que l'amour fonctionne. Donc cette joie serait comme une réaction à chaîne à l'infini. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes dans la joie lorsque quelque chose de bien lui arrive. Sa joie devient votre joie lorsque vous aimez quelqu'un. Alors au ciel, nous serons dans la joie, mais nous allons voir d'autres que nous aimons être dans la joie. Et donc ça va multiplier notre joie. Et ce sera encore une source d'amour, vous voyez? Toute la Bible nous rappelle que le ciel, le salut, est uniquement par grâce. On ne peut rien faire pour mériter le ciel. Mais la Bible parle aussi des récompenses pour la fidélité et le service chrétien que Dieu, dans sa grâce, a produit en nous. À des degrés différents, même, certaines pourraient être grandement récompensées. Mais même là, ce sera une source supplémentaire de joie de voir d'autres être félicités et récompensés par Dieu. Parce que, comme nous avons vu, l'amour n'est point envieux. L'amour se réjouit de la vérité, se réjouit de la justice. Donc quand Dieu fait justice, quand Dieu célèbre la vérité, quand Dieu récompense les autres, ce sera une source de joie pour soi-même. D'ailleurs, je pense que à cause de l'amour, vous éprouvez ce sentiment généralement envers vos enfants. Puisqu'on aime nos enfants, donc quand eux, ils reçoivent quelque chose de bien, quand ils sont félicités, quand ils sont récompensés, quand ils réussissent dans leur parcours de vie, naturellement, aux parents, ça apporte une grande joie. Et donc, quand vous voyez la réussite de vos enfants, parce que vous les aimez, vous êtes dans la joie. Même si, ça c'est pour les enfants, souvent avec les autres, il y a un petit peu d'envie ou de jalousie quand d'autres réussissent plus que moi. Mais c'est parce qu'ils manquent de l'amour, c'est tout. Si vraiment on aimait quelqu'un, on serait dans la joie parfaite de le voir réussir. Et c'est ça l'amour. Et le ciel sera comme ça éternellement. C'est merveilleux. imaginer un tel monde où l'amour règne parfaitement. John Lennon nous avait invités à imaginer un tel monde avec son Imagine. Mais pour lui, pour arriver à ce monde d'amour, il faut supprimer et le ciel et l'enfer. Et le paradis. Mais justement, je dirais que ce sont les deux choses qu'il ne faut surtout pas supprimer si vous voulez vivre éternellement l'amour. Même je dirais que l'enfer existe pour préserver l'amour éternel. C'est-à-dire, par amour, Dieu ferme l'accès au ciel à tous ceux qui insistent à vivre dans le mensonge, dans le malheur, et qui veulent entraîner d'autres. Donc, par amour, il fait ça. C.S. Lewis a une réflexion pertinente. Il dit, soit le jour viendra où la joie prévaudra, et où tous ceux qui sèment le malheur ne pourront plus la contaminer, soit pour toujours et à jamais, ceux qui sèment le malheur pourront détruire chez les autres le bonheur qu'ils rejettent pour eux-mêmes. Et Dieu dit non, au ciel, ce ne serait pas possible. Et comme dit l'apôtre Jean, ne pas croire en Jésus comme Christ, comme seul sauveur, c'est être menteur et accuser Dieu de mensonge. Ce qui sème le malheur, ce qui n'est pas aimant. Et donc, c'est pour ça que Dieu ferme l'accès à de telles personnes. Parce qu'il veut un monde d'amour. Et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi Louis qui rappelle ça. Personne n'ira pas au ciel qui l'aurait voulu, et personne n'ira en enfer qui ne l'aurait pas voulu. Personne n'ira pas au ciel qui l'aurait voulu. Si vous voulez l'amour, c'est que vous voulez Dieu. Si vous voulez Dieu, vous voulez Jésus-Christ et son seul salut. Et au fond, si vous ne voulez pas ça, c'est que quelque part, l'égoïsme, la propre justice, le mensonge vous anime. Donc personne n'ira pas au ciel qui l'aurait voulu, et personne n'ira en enfer qui ne l'aurait pas voulu. Moi, je ne veux pas ce monde d'amour-là, je veux que les choses soient centrées sur moi. Je veux pester, j'aime critiquer, j'aime pester, j'aime blâmer. Alors Dieu, okay, j'ai un endroit réservé où vous pouvez faire ça éternellement. Vouloir le ciel, c'est vouloir Dieu. Vouloir Dieu, c'est vouloir aimer Christ et son salut. Mais je rappelle ce matin, si vous croyez en Jésus, si vous recevez son amour, si vous l'aimez en retour, vous irez au ciel, vous irez à ce monde d'amour. Donc ça donne vraiment envie d'aller à un monde d'amour. Et enfin, ça donne une feuille de route pour nos jours ici-bas et pour notre Église en particulier. Puisque le ciel est un monde d'amour, puisque l'amour ne périt jamais, puisque l'amour est la plus grande de ces choses, parce qu'un jour la foi et l'espérance, on n'en a plus besoin, puisqu'on sera au ciel. Eh bien, Paul encourage les Corinthiens à en faire une feuille de route. C'est une pensée qui arrive souvent dans ses écrits, Paul, que le modèle céleste, les activités célestes deviennent un modèle pour l'Église ici-bas. Les activités et l'ambiance éternelle sont une feuille de route pour ce que l'on veut vivre à petite échelle dans l'Église. Ce serait toujours à petite échelle parce que le ciel, c'est la perfection. Mais ici-bas, ça nous donne quand même une motivation, une inspiration. Puisque, c'était la réflexion ce matin, puisqu'on loue Dieu au ciel et qu'on chante qu'il est saint et on crie des alléluia au ciel, eh bien, on le fait aussi ici, les dimanches matins et dans la vie. Donc, puisqu'on loue Dieu au ciel, louons-le maintenant. Puisqu'on sert Dieu au ciel, servons-le maintenant. Et puisqu'on va s'aimer parfaitement au ciel, les uns les autres, commençons dès maintenant. C'est ça le grand appel de Paul dans ses derniers versets, il me semble. Puisque l'amour régit le ciel éternellement, faisons un modèle ici-bas. La semaine prochaine, c'est la convention missionnaire. On réfléchit ensemble à la mission, à l'envoi et le soutien des missionnaires dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Et des fois, ça touche des personnes et ils disent « Moi aussi, j'ai envie d'aller. » Mais j'ai bien apprécié ce que disait notre stagiaire Alexandra récemment. Et il disait « Oui, souvent les gens disent « J'ai envie d'être missionnaire. » Mais souvent, le conseil sage, c'est que si vous n'êtes pas déjà en train de prendre à cœur les activités missionnaires, dans votre contexte, dans votre langue, dans votre pays, vous n'allez pas commencer dans un autre pays. Donc commençons maintenant. Si vraiment vous avez à cœur la mission dans d'autres pays, soyons-le dans votre pays et puis Dieu va vous conduire. Il y a une sagesse dans un tel conseil. J'ai envie de dire, c'est pareil avec l'amour. Si Dieu, si sa parole, si son peuple ne sont pas les objets de votre amour ici-bas, vous serez malheureux au ciel, parce que c'est ce qu'on fait au ciel. On aime Dieu, on aime son peuple et on aime sa parole. Commençons ici-bas, si vous prétendez vouloir aller au ciel. Par contre, si vous aimez la discorde, les conflits ici-bas, vous montrez en tout cas un caractère incompatible avec le ciel et vous êtes en mesure de vous poser la question de savoir si vous êtes vraiment en route pour le ciel, si la semence divine, si l'ADN du ciel a transformé votre cœur ou pas. Vous voyez, ça donne une feuille de route ici-bas. Mais si l'amour qui règne au ciel est déjà une réalité dans notre entourage, dans notre église, alors oui, c'est beau. Ça donne une feuille de route pour continuer. Et parfois, vous allez constater, même à l'EBTM, que l'amour du ciel n'est pas parfaitement en train de régir nos relations. Alors, au lieu de vous décourager, au lieu de mettre en cause la Bible, que cela vous donne plutôt le mal du pays d'être un jour au ciel. Et donc vous persévérez, vous patientez, puisque l'amour est patient. Et vous comprenez que les gens autour de nous, soi-même et les autres, ne sont pas encore complètement transformés à l'image de Christ. Donc cette soif d'amour nous donne le mal du pays, le pays céleste. J'aime bien ce cantique, je termine avec celui, c'est un vieux, c'est dans les Aides de la foi. J'ai sorti quelques strophes, mais qui rappellent ce qui nous attend, ce mal du pays que nous vivons ici-bas, et qui donne une feuille de route. L'horizon se colore, à l'Orient paré, la radieuse aurore que mon âme espérait. La nuit fut longue et noire, mais voici que le ciel resplendit de ta gloire, pays d'Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous, c'est Jésus-Christ. J'ai connu sur la terre ta divine saveur, eau vive, eau salutaire, amour de mon sauveur. Mais bientôt je vais boire à ton fleuve éternel, au pays de la gloire, au pays d'Emmanuel. L'heureuse fiancée attend l'époux le roi. C'est nous, c'est l'Église, la fiancée, on attend l'époux le roi. Mon cœur, ma pensée sont tout remplis de toi, victime expiatoire qui m'a ouvert le ciel, où je verrai ta gloire, pays d'Emmanuel. Voilà ce pays qui nous attend, ce pays d'amour. Et ici-bas, j'ai connu, on peut connaître un peu cette divine saveur, notamment par le salut en Jésus-Christ et par cette vie d'Église que nous vivons ensemble. C'est là où nous goûtons déjà les prémices de l'amour céleste. Oui, je reconnais qu'ici-bas, nos expressions d'amour, même mes explications de l'amour du ciel sont pâles, sont petites, sont inadéquates. Mais un jour, nous allons boire à la source. Alors que notre Église, que nos cellules, que nos échanges donnent au monde un reflet de l'amour du ciel, que l'EBTM existe pour donner envie au monde de rejoindre le pays d'Emmanuel, le pays d'amour, l'éternité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions, tu es le Dieu éternel, le Dieu infini, le Dieu qui ne change pas. Tu existais depuis toute éternité et tu existeras pendant l'éternité. Et pendant toute cette existence, tu es aussi le Dieu trinitaire, un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui vit dans l'amour, qui est amour. Et tu as conçu un plan de salut pour nous inclure dans cet amour. Nous nous sommes éloignés, nous nous sommes rebellés contre toi, nous avons rejeté l'amour, nous avons choisi de vivre dans la haine, dans l'égoïsme, dans les conflits. Mais tu nous as graciés, tu nous as donné Jésus-Christ, il est venu nous chercher, il nous a montré la preuve ultime de l'amour, la croix, en donnant sa vie pour nous, en ressuscitant, il nous entraîne avec lui dans la vie, il fait de nous des citoyens du ciel. Et nous voulons nous rappeler ce matin que nous sommes déjà citoyens du ciel, ce pays d'amour. Et nous voulons que l'amour régisse nos relations, nos échanges, en attendant d'être enfin plongés dans cet océan de gloire, cet océan d'amour. Nous te remercions que telle est notre destinée en tant que croyants dans ce monde. La destinée finale, les gens ne savent pas, ou c'est l'extinction de toute chose, mais tu nous offres une destinée bien plus glorieuse que d'entrer dans l'amour, de vivre l'amour, et nous te prions que ça donne envie à chacun de nous de nous mettre en route, de saisir la main de Jésus-Christ, son salut, qui nous offre par amour, et de essayer de l'aimer en retour, faiblement, mais parce qu'il nous a aimés parfaitement, nous te remercions. Merci pour ce culte que nous t'avons pu offrir. Bénis le restant des activités de cette journée. Conduis-nous tout au long de cette semaine pour nous aider à vivre dans l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.